bien. Nous louons le Seigneur, remercions-le pour ce culte de ce matin. Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin de bénir ces instants que nous passons ici au salon du château et de permettre que nous puissions comprendre quelle est la profondeur, la largeur, la longueur de ton amour pour nous et que nous puissions être réconfortés, soutenus, fortifiés et bénis par ta parole ce matin. Que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions éclater en louange et en adoration devant toi. Merci Seigneur Jésus de nous garder tous dans ta paix. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci mon Dieu. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant. Lequel tu nous proposes, Stéphane? Le 50. Loué soit l'Éternel.
Alors. Le matin quand je me lève, le Seigneur est près de moi. Avant que la nuit s'achève, je me prépare au combat. Je sais que j'ai la victoire en chantant ses têtes hautes. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, au son dont le cœur s'enfuit. Quand je marche sur la route, l'Éternel marche avec moi. Je ne crains pas de doute, car je suis rempli de foi. Je ne chancellerai pas, car je garde mes pas. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, aussi dans le diable s'enfuit. Quand je suis dans le combat, Seigneur, je m'appuie sur toi. Quand je vois mes ennemis, ah, je réjouis, car je sais que tu t'en vais.
Voilà, je vais recommencer comme je faisais il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire m'asseoir. Vous savez que Jésus s'asseyait pour prêcher, les rabbins s'assoient pour prêcher, donc... Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Internet, Dieu vous bénisse. On va lire dans 1 Pierre ce matin. 1 Pierre, chapitre 1. Oh, est-ce que se cache mon frère Pierre là? Voilà, 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Vous, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Amen. Je vais vous asseoir. Rappelez que je vous avais dit, c'est le salut a été payé intégralement par Jésus-Christ sur la croix, mais notre part, c'est la foi. Elle a un prix. Donc c'est un peu simplifier la chose que de dire nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus uniquement. Nous avons aussi une marche chrétienne à assurer. D'accord ? Sinon nous serons sauvés comme au travers du feu. Et ça, c'est quand même pas très glorieux. Et donc, les épreuves sont parfois nécessaires. Et on a lu, hein, on vient de lire, parce qu'il le faut, parce qu'il le faut. Mais nous connaissons aussi d'autres textes, par exemple celui qui nous dit que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces, et d'autres qui disent que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Je lisais dernièrement sur un blog c'est l'homme ou la femme, je ne sais pas, qui écrivait, disait que nous ne devons pas avoir du tout d'image chez nous. Parce que si nous avons des images chez nous, eh bien, c'est de l'idolâtrie, et même, c'est pas la question de se prosterner ou pas, parce que c'est interdit d'avoir des images chez soi. Et que si on se permet d'en avoir, eh bien, c'est qu'on fait un péché d'orgueil, parce que, tôt ou tard, on sera tenté d'aller se prosterner devant, enfin, voilà. Même pas une photo, il dit. Même pas une photo. Parce que c'est de l'idolâtrie. Alors, je pensais à cette vieille maman, seule dans sa maison de retraite, qui aime Dieu. Cette vieille maman, je la connais. Je la connais très bien. Elle se nomme Denise, elle a 17 enfants. Alors, je m'imaginais en train de lui dire de jeter les photos de ses enfants et de ses petits-enfants qui envahissent toute sa chambre. Je m'imaginais en train de lui dire, au nom de Jésus, jetez ces photos d'Annick, votre chère fille qui est décédée. Je pensais à ce frère qui travaille toute la semaine à Paris, et il est béni, parce que avoir du travail aujourd'hui, c'est pas facile, il y a quand même plus de 3 millions de chômeurs, j'espère que la France va bien voter aujourd'hui. Et je pensais à lui parce que dans ce blog, je lisais que si nous sommes un vrai chrétien, nous ne devons pas avoir d'idole chez nous. Alors ce frère n'a pas d'idole chez lui, je sais, je le connais bien. Par contre, il en vend à longueur de journée. Alors je pensais qu'on pourrait aller lui dire d'arrêter de vendre ses abominations et lui dire au nom de Jésus, arrête, quitte ton travail, c'est un péché, tu induis des centaines de personnes, n'est-ce pas, dans le péché en leur vendant des idoles égyptiennes, africaines, babyloniennes, etc. Je me disais... Est-ce que Dieu est vraiment comme ça? Je ne me suis pas posé la question très longtemps. Je vois que Dominique il se coule la tête, il dit, non, Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que vraiment l'homme et la femme, qui a écrit ça, est inspiré par l'Esprit de Jésus? Celui qui aime tant les gens qu'il a donné sa vie sur la croix pour les sauver, et maintenant il voudrait que cette vieille maman lui sacrifie les photos de ses petits-enfants. Il exigerait que ce frère quitte son travail. Alors je pensais que... Et je me suis souvenu d'une histoire que j'avais lue. C'est l'histoire de deux hommes qui sont en train de... Ils sont à cheval. Et ils sont dans une plaine, puis ils voient une montagne. Et il y en a un des deux qui dit, bien, tiens, on va monter cette montagne. Et c'est parce que c'est là que Dieu demeure. Alors, ils continuent leur chemin, ils arrivent au pied de la montagne et ils montent. Et pendant qu'ils montent, celui qui a dit « on va monter sur la montagne », il dit « j'ai l'intention de te prouver », donc il dit à l'autre, « j'ai l'intention de te prouver que Dieu ne sait qu'exiger et qu'en réalité, il ne fait rien pour soulager nos fardeaux. » Et l'autre a souri, puis il a dit « ben, moi je vais t'accompagner jusqu'en haut pour te démontrer que ma foi en Dieu est une foi en un Dieu qui est bon. » Alors des heures... passent et finalement ils arrivent en haut, au sommet de la montagne, et puis la nuit est tombée, il fait nuit noire, sombre. Et ils se tiennent là, dans le silence, ils descendent de cheval, et puis il faut faire attention, ils mettent les pieds parce qu'ils ne voyaient rien du tout, il fait vraiment très très nuit, c'est les ténèbres complets. Et dans la nuit, totale, tout à coup, il y a une voix qui sort, on ne sait pas d'où, vous savez, un peu comme dans les films. Chargez vos chevaux des pierres qui jonchent le sol. C'était la voix de Dieu qui parlait. C'est une histoire, hein? La voix de Dieu qui parlait. Alors le premier dit à son copain, tu vois, après qu'on ait fait tous ces efforts pour monter sur la montagne où Dieu habite, eh ben, en plus, il veut alourdir notre charge. Je n'obéirai pas. Hein? Et l'autre cavalier... Il se baisse, et puis à tâtons, il trouve des pierres, il ramasse des pierres, et puis il en charge, ils sont lourds en plus, il en charge son cheval. Et puis, au bout d'un long moment, ils redescendent de la montagne, dans le noir, en plus il fait froid, il commence à pleuviner, et puis après il arrête de pleuvoir, ça se découvre un petit peu, puis la lune apparaît, ils arrivent en bas de la montagne, mais le premier est sur son cheval, mais le deuxième il marche à côté, hein, celui qui a obéi. Et ils arrivent enfin au pied de la montagne et l'aurore pointe. Et là, les premiers rayons de soleil illuminent les pierres du pieux cavalier. Et en fait, c'était les plus gros et les plus purs diamants qu'on avait jamais vus. Vous voyez, mes frères et sœurs, la décision, les décisions de Dieu sont mystérieuses, peuvent paraître bizarres, mais elles penchent toujours en notre faveur. Alors, est-ce que je suis en train de me contredire? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut brûler les images, qu'il faut que Dieu est exigeant, que lui sait pourquoi et nous on ne sait pas? Est-ce qu'à dire que Dieu nous demande de quitter notre travail? Moi, je me rappelle, j'étais jeune, je travaillais dans une imprimerie pour pouvoir payer mes études bibliques. Et c'était une imprimerie, et dans ce journal, un jour, j'ai remarqué qu'il y avait l'horoscope. J'ai dit, est-ce que je peux travailler dans une imprimerie qui imprime l'horoscope? J'étais repris dans ma conscience de jeune chrétien. Et j'étais demandé à mon pasteur, mais quand même Michel, mais non, arrête, arrête, s'il te plaît. Donc, je n'ai pas arrêté mon travail, j'ai arrêté d'être bête. Il n'y a qu'un esprit dérangé qui peut croire des choses pareilles, pas moi. Et il en sera fait selon notre foi à nous deux, c'est-à-dire celui qui croit que Dieu est comme ça, dur, implacable, cruel, ben, il en sera fait selon sa foi. Et puis celui qui croit que Dieu est bon, compatissant, gentil, ben, il en sera fait selon sa foi aussi. Je pense que l'homme ou la femme qui a écrit ce truc sur Internet, ben, il ne doit pas avoir une seule photo, parce que c'est pas permis. Cette personne écrit dans un français un peu genre Wikipédia, mais quand même un bon français. Je pense que cette personne-là, elle doit avoir jeté toutes ses photos, donc son permis de conduire, ou sa carte d'identité peut-être aussi, parce que c'est une photo. Vous voyez, c'est la religion, ça c'est la religion, ça rend bête, excusez-moi, ça rend très bête. Et ça peut rendre dangereux. Vous vous rappelez, quand j'étais jeune, il y avait un journal qui s'appelait Harakiri. Vous savez ce que c'est Harakiri? C'est se planter un poignard dans le bide et puis c'est l'entrée comme ça. Harakiri, c'était marqué en dessous, journal bête et méchant. Au moins eux, ils savaient qu'ils étaient bêtes et méchants. Voilà, c'est Dieu n'est pas méchant. Ni avec la vieille Denise, ni avec notre frère qui vend des idoles. Dieu n'est pas, mais il ne vend pas des idoles, il vend des statues, des reproductions d'art. Mais voilà, on peut voir des idoles, puisque c'est des images taillées. Par contre, je dirais que si Dieu est bon, les méchants n'ont pas besoin de raison pour haïr, leur méchanceté leur suffit. Je sais, c'est pas un verset biblique ce que je viens de vous dire là, c'est du Alexandre Dumas, pardonnez-moi pour ma culture. Je ne lis pas que la Bible. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres livres que nous devrions lire quand nous sommes chrétiens afin de mieux comprendre, de mieux cerner dans quel temps nous vivons et les progrès extraordinaires qui ont été faits au niveau du contrôle de la pensée, de toutes ces choses-là. Frères et sœurs, il ne faut pas vous laisser mettre sur le joug de l'ennemi. Je ne dis pas que les gens qui ont écrit ça sont des ennemis, mais il y a un esprit derrière que je n'aime pas beaucoup. Dieu nous a pardonné. Je vous expliquais ça vendredi passé. Dieu a pardonné nos péchés, mais il nous fait grâce pour nos faiblesses. Nous avons des faiblesses. Jésus avait des faiblesses. La Bible dit qu'il est mort à cause de sa faiblesse. Il avait des faiblesses. Il n'a jamais péché. Nous péchons. Ça peut arriver. Et nous avons toujours le pardon de notre Dieu. Mais pour ce qui est de nos faiblesses, il nous fait grâce et nous dit c'est même dans notre faiblesse qu'il peut se manifester en puissance. Donc il ne vous débarrassera pas de votre faiblesse. On a tous une faiblesse, quelque chose qui, voilà. Mais Dieu nous fait grâce. Il y a le pardon pour le péché et la grâce pour la faiblesse. Vous n'êtes pas hérétique parce que vous avez un tableau de Jésus chez vous. À moins que vous vous prosterniez devant, évidemment, mais... ou même de sa mère, bon j'en ai pas moi, mais bon, je peux comprendre. Quand je vais aux États-Unis, je vois les chrétiens pentecôtistes, même Assemblée de Dieu, ben, ils sont pas comme ici en France, parce que c'est peut-être une question de culture, je sais pas, mais ils ont toutes sortes de reproductions, ça les gêne pas du tout. Je sais pas moi, une photo de Mickey, ou Donald, plutôt, Dingo, ou vos petits-enfants, je pense pas que vous soyez derrière. L'hérétique, c'est pas celui qui est sur le bûcher, c'est celui qui allume le bûcher. Souvenez-vous de mon papa Osborne. Il disait, Dieu a donné des lois pour diriger les gens. Et ensuite, il a institué des sacrifices d'animaux pour leur donner le sens de la valeur des transgressions. Et puis, il a regardé. L'homme ne changeait pas. Alors, Dieu a dit, j'en ai marre. Vous vous rappelez comment il disait ça? J'en ai marre. Terminé. Désormais, je pardonne tout. Et il continue en disant, et maintenant, allez et annoncez cette bonne nouvelle, je pardonne tout. Jésus a payé le prix à votre place, c'est-à-dire le prix que vous deviez payer, il l'a payé lui. Alors, ça ne signifie pas que nous pouvons pécher comme nous voulons. Si nous sommes des véritables chrétiens, eh bien, nous aimons notre Père et nous ne voulons pas faire des choses qui le blessent. Bien sûr que non. Ça signifie simplement que nous sommes libres de la condamnation et des inquisiteurs. Aujourd'hui, il y a des élections en France. La France est une démocratie. Et parce que la France est une démocratie, j'ai peur pour la France. J'ai peur pour la France. Winston Churchill disait, le meilleur argument contre la démocratie, c'est une conversation de 5 minutes avec un électeur moyen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Eh bien, je dis que c'est la même chose. J'ai peur de cette liberté que prennent certaines personnes qui ne sont que des prédicateurs moyens. Il y a quand même un minimum d'études à faire et de cœur à avoir. Ne vous laissez pas impressionner par des prédicateurs moyens. Dieu vous aime. Il ne vous enverra pas rôtir en enfer parce que vous avez été baptisé au nom de la Trinité, ou parce que vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus, ou parce que vous avez été baptisé la tête en arrière, ou parce que vous avez été baptisé la tête en avant. Dieu est amour, il est bonté, il n'y a aucune once d'imbécilité en lui, ni de méchanceté. Il nous a fait grâce. Alors, profitez aujourd'hui de la grâce qu'il vous a fait, qu'il vous a accordé, et en particulier cette grâce magnifique de vivre au 21e siècle et non pas au Moyen Âge. Amen. Qui c'est qui me donne un amen là? Alors vous savez, parce que moi je serais sur le bûcher au Moyen Âge. Maintenant là, ils peuvent critiquer, condamner tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas me foutre sur le bûcher. Au Moyen Âge, ils seraient sur le bûcher. Profitez aujourd'hui de toutes les grâces que Dieu vous a données. On ne peut pas thésauriser une grâce. On ne peut pas, vous ne pouvez pas mettre des grâces de côté dans une banque pour faire fructifier les grâces. Non, il faut les utiliser tout de suite quand elles vous sont données. Ça n'existe pas une banque où vous pouvez déposer des grâces reçues en attendant qu'elles fructifient. Ça n'existe pas, ou que vous puissiez en faire usage quand vous en avez envie. Non, à chaque jour suffit ta peine, mais aussi ta joie, ta grâce, ton pardon, tout. Si vous ne profitez pas des bénédictions quotidiennes que Dieu vous donne aujourd'hui, elles seront irrémédiablement perdues et vous aurez eu une vie aujourd'hui minable, grise comme les murs, triste ou nette, ennuyeuse au possible, alors que Jésus nous a envoyé avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mon Dieu. Dieu sait que nous sommes les artistes de notre vie, nous façonnons notre vie. Alors il nous a donné de l'argile pour sculpter, il nous a donné un autre jour des pinceaux, une toile pour peindre, pour faire quelque chose, une plume pour écrire, mais vous ne pouvez jamais utiliser de l'argile pour peindre un tableau, ni une plume pour réaliser une sculpture. Ce que Dieu veut dire, c'est que nous devons tout utiliser, mais à bon escient. N'utilisez pas les choses pour faire le mal. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous comprenez mes phrases de ça? chaque jour aussi son miracle. À chaque jour son miracle. Accepter les bénédictions et travailler et créer aujourd'hui une petite œuvre d'art, quelque chose de beau, de gentil, de constructif, plutôt que de chercher à détruire. Demain, vous ferez de nouvelles choses, mais aujourd'hui, faites quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Avec Michou, mon épouse, nous avons visité le parc de Yellowstone. Qui c'est qui est allé là autrement? Ben, vous avez raté quelque chose. Il faut aller à Yellowstone avant que ça pète, parce que c'est un volcan en puissance et ça risque de sauter d'un jour à l'autre, là. Mais c'est superbe, c'est sublime. Et là, entre autres, parce qu'il y a des merveilles partout, mais entre autres, il y a un endroit où il y a des paliers de rochers multicolores. Vous avez l'eau qui coule là, et ça vous fait des plateaux. Il y en a des bleus, des rouges, des jaunes. C'est la pierre est lisse. C'est sublime, c'est superbe. C'est l'eau qui a fait ça. C'est l'eau qui a fait ça. C'est pas le marteau qui a rendu la pierre si parfaite. C'est l'eau, avec sa douceur, avec sa danse, avec sa chanson. C'est pas le marteau. Vous savez, là où il y a la dureté ne fait que de détruire, bien l'eau, elle construit. L'eau, elle parvient à sculpter. Alors j'en entends déjà qui disent « Oui, mais Michel, des fois tu es très dur. » Oui, absolument. Farpètement, dirait Obélix. Vous voyez que j'ai une culture étendue, hein, ça va de... Obélix, il dirait farpètement. Michel, c'est vrai, je suis parfois dur. Mais je vous ferai remarquer que Dieu aussi est dur parfois. Et il est dur avec qui? Avec ceux qui ont besoin de la loi pour apprendre à bien se comporter. Et si Dieu fait comme ça avec ceux qui ont besoin de la loi pour bien se comporter, il est normal que je sois dur avec les gens qui ont besoin d'apprendre à bien se comporter. Je me rappelle de cette vieille maman qui portait des piles de 5-6 assiettes et qui marchait avec peine à cause de son arthrite et sa fille qui était là à côté qui la regardait passer plutôt que de se bouger pour aller l'aider. Ah, là, je suis dur. Tu mets bouge-toi, aide ta maman. Ah bon? Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est juste un exemple, il y en a bien d'autres. Alors, je pose la question, Madame Denise, êtes-vous méchante de votre âge? Maison de retraite. Si vous êtes méchante, alors oui, faut brûler vos idoles, faut brûler la photo d'Annick, votre fille qui est décédée dans le Seigneur. Et puis comme ça, parce que sinon vous risquez de tomber dans l'idolâtrie de votre fille si vous êtes méchante. Mais je sais bien que Maman Denise n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Dieu a changé son cœur. Maman Denise est une fille de Dieu. Et c'est tout à fait normal qu'elle ait des photos de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est tout à fait normal. Vivez dans la paix que Dieu vous a accordée. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. C'est l'amour qui nous guide, pas la peur, ni la condamnation des inquisiteurs. C'est l'amour. Vous savez, de peur de rapetisser, ils oublient de grandir. De peur de pleurer, ils oublient de rire. De peur. Mais quel malheur! Mais quel malheur de vie! Quelle séduction! C'est terrible. La communauté que Michel et moi nous avons fondée depuis 77 maintenant, elle va continuer d'exister par la grâce de Dieu, encore plus grande qu'avant et plus belle. Et... Vous savez, le trésor spirituel, c'est quelque chose qui se découvre d'une façon solitaire. On est seul pour découvrir notre trésor solitaire. Et pourtant, la Bible nous dit que nous devons vivre ensemble. Pourquoi ? Mais parce que ensemble, nous sommes comme la forêt. Et la forêt, elle est toujours plus forte qu'un arbre isolé. Voilà pourquoi la forêt, elle est plus forte. Pourquoi elle est plus forte? Parce que la forêt, elle conserve l'humidité. Elle résiste mieux aux ouragans. La forêt, elle continue, elle contribue à fertiliser le sol. Mais... ce qui fait la force de l'arbre tout seul, c'est sa racine. Et votre racine ne peut pas m'aider. Ma racine ne peut pas vous aider. Ce qui est une aide, c'est ce qui est en haut,
ce qui est visible et ce qui est uni. La racine, c'est personnel. Voilà pourquoi nous vivons ensemble avec comme but un but commun permettant à tous ceux qui veulent de se développer à leur manière. C'est des grands arbres, des petits arbres, de toutes sortes, dans une forêt. Voilà le chemin de ceux qui désirent communier avec Dieu. C'est de vivre la vie de forêt. Je ne dis pas qu'on va devenir les ermites dans la forêt. Mais je dis, j'espère que vous avez compris. Bon. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je sais que chacun va comprendre à sa manière. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. C'est que chacun comprend à sa manière. Ce que Jésus dit n'est pas compris de la même manière par tout le monde. Et voilà pourquoi vous avez des catholiques, et parmi les catholiques, il y a une infinité de croyances et de sortes de sectes catholiques, si j'ose dire. Hein, vous avez... Et puis chez les protestants, c'est la même chose. Et chez les évangéliques, c'est pareil. Parce que ce que la Bible dit n'est pas compris de la même manière par tous. Et vous savez pourquoi ? Ben c'est parce qu'on n'est pas tous pareils. On ne perçoit pas les choses d'une façon pareille, tout le monde. Et c'est là que doit intervenir l'amour et le respect. Mais même l'amour, même le respect peut être mal compris. Ceux qui ont des enfants ici, ils savent, de temps en temps, il faut crier dessus. Quand ma fille ou mon gendre enguirlande un gamin parce qu'il a fait une bêtise, il le fait par amour, n'est-ce pas? Mais le gamin, il peut peut-être penser que c'est une insulte. Non? Ben oui. Parce que ses oreilles et son cœur n'entendent pas la même chose, les mots, les intonations, le débit de parole de ma fille ou de son papa. Et c'est là qu'il faut croire à l'amour. C'est là qu'il faut faire confiance. Mais quand on a décidé de ne plus faire confiance, à quoi vous faire quoi? Qui c'est qui a tort là? Eh bien, quand on a décidé de ne plus faire confiance, on entend tout faux. On entend tout faux. Et je vais vous terminer cette petite méditation de ce matin par une histoire bien païenne. Je sais que ça pourrait choquer, mais on est entre nous. Enfin, ceux qui viennent sur Internet, c'est qu'ils m'aiment, c'est qu'ils me connaissent, donc ils savent très bien. C'est une histoire qui n'est pas biblique, mais cependant, elle est très belle et très vraie. Un matin, Bouddha, vous connaissez Bouddha, pas Monsieur Bouddha, le ministre... qui est devenu maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais il est devenu ambassadeur aux États-Unis, ambassadeur du Burkina aux États-Unis. Rappelez l'homme qui avait son fils qui était guéri par le Seigneur. Eh bien, Bouddha, le gros, là, Bouddha était assis, entouré de ses disciples, c'était le matin, et un homme est entré et il lui a demandé « Dieu existe-t-il ? » Et Bouddha a répondu avec fermeté « Oui, il existe. » Après le déjeuner, un autre homme est entré et s'approche de Bouddha et demande « Dieu existe-t-il ? » Et Bouddha répondit « Non, avec fermeté. » Plus tard, en fin d'après-midi, un homme pose la même question « Dieu existe-t-il ? » Et Bouddha dit « C'est à vous de décider. » Ses disciples attendent que les invités s'en aillent et puis ils vont vers Bouddha parce qu'ils sont comme les autres, ils ne vont pas engueuler Bouddha devant tout le monde. Puis, maître, mais c'est absurde! À la même question, vous avez donné des réponses différentes, mais alors ça veut dire quoi? C'est quoi ce cirque? Enfin, Bouddha, réponds-nous! Qu'est-ce que ça veut dire? Et Bouddha répond, mais c'est parce que ce sont des personnes différentes et chacune va s'approcher de Dieu à sa manière. L'un à travers certitude, l'autre à travers la négation et l'autre à travers le doute. De même, mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu est dur et qu'il veut que vous brûliez vos photos et qu'il est juste en faisant cela,
c'est bien pour vous. Continuez. Allez de l'avant. Et moi, je crois que Dieu est amour et juste. Alors, laissez-moi aller de l'avant. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous aider à bien comprendre la profondeur de toutes ces paroles que j'ai données ce matin et de les adapter à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver afin de ne pas nous laisser troubler par ceci ou par cela, mais à toujours nous souvenir que tu es un Dieu de pardon, d'amour, de grâce, un Dieu juste, certes, mais un Dieu qui n'est pas méchant, qui n'est pas cruel, qui est bon avec ses enfants, qui les corrige quand il y a besoin, mais qui n'est pas un Dieu qui abuse de son pouvoir pour faire du mal, pour faire de la peine. Merci Seigneur Jésus de d'aider chacun et chacune qui écoute sur le net, afin qu'au milieu de ses problèmes, peut-être de relations avec des pasteurs ou avec des anciens ou avec des chrétiens de son église, il puisse comprendre les choses que j'ai dites ce matin et qu'il puisse mettre la tête hors de l'eau et respirer en ta présence tranquillement, sans se laisser accusé par des accusations tellement bizarres. Aide-le, aide-les, aide chacun, mon Dieu, à trouver en toi un refuge de paix, d'amour et de grâce. Merci Jésus. Amen. Amen.
Je ne sais pas comment on arrête ça.